Bonjour et bienvenue, 10h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'offre de Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine. Il propose des négociations de paix directe la semaine prochaine à Istanbul. Le président russe ne se prononce toujours pas sur le cessez-le-feu que réclament l'Ukraine et ses alliés. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, parle tout de même de signes positifs. Entre l'Inde et le Pakistan, le cessez-le-feu est entré en vigueur et il tient, malgré quelques accrochages rapportés par les deux pays. Également dans l'actualité de ce dimanche, la reprise des négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran et la première messe dominicale célébrée à Rome par le nouveau pape Léon XIV. À suivre après le journal, une spéciale Religion du monde, l'émission de Véronique Guémard. L'armée de l'air de l'Ukraine fait état ce matin d'une centaine de drones tirés dans la nuit par la Russie sans faire de victimes. Les frappes russes ont repris à l'expiration la nuit dernière de la trêve de 3 jours qu'avait décrété en début de semaine Moscou. Dans le même temps, sur le terrain diplomatique, Vladimir Poutine se dit prêt à des négociations de paix directes. Il donne rendez-vous jeudi prochain à Istanbul en Turquie pour, dit-il, éliminer les causes profondes du conflit et parvenir à une paix durable. Le maître du Kremlin, qui n'a pas parlé de cessez-le-feu, doit s'en entretenir ce dimanche avec son homologue, le président turc. La contre-proposition russe est tout sauf surprenante. Explication à Moscou de Jean-Didier Revoin.
La Russie était dans l'obligation de réagir à l'ultimatum de cessez-le-feu que lui ont lancé Kiev et ses alliés occidentaux. Et à défaut d'accepter de faire taire ses canons dès lundi, eh bien Vladimir Poutine fait une proposition que l'on n'attendait pas forcément en invitant Kiev à des pourparlers directs dès jeudi à Istanbul. Il a une fois encore répété qu'il était prêt à négocier sans condition préalable, soulignant que sa proposition était sur la table et que la réponse dépendait désormais du pouvoir ukrainien. Reste que les positions des partis restent très éloignées. On a d'un côté Kiev et ses alliés, qui réclament depuis plusieurs mois maintenant un arrêt des combats, et de l'autre, Moscou, qui veut négocier une solution de long terme sans pour autant interrompre son effort de guerre jusqu'à ce qu'un accord puisse intervenir. Des positions qui ne semblent pas converger et laissent la Russie en position de force sur le champ de bataille, raison pour laquelle cette nouvelle proposition de Vladimir Poutine lui permet de faire porter à l'autre camp la responsabilité d'un échec éventuel.
Jean-Didier Revoin à Moscou pour RFI. Par la voix du président Volodymyr Zelensky, Kiev a réagi à la proposition de Vladimir Poutine en exigeant de nouveau un cessez-le-feu de 30 jours à partir de demain, lundi. Mais le président ukrainien a également qualifié de signe positif le fait que la Russie commençait à envisager de mettre fin à la guerre. Direction maintenant la Pologne, à l'approche de la présidentielle. Le premier tour dimanche prochain. Hier soir, la droite conservatrice est descendue dans la rue à Varsovie pour protester contre l'immigration. Ces derniers temps, une opération de désinformation assurant que l'Allemagne se débarrassait de ses migrants illégaux en les repoussant à la frontière polonaise s'est répandue sur les réseaux sociaux. Opération visant à discréditer le candidat de la majorité. Il s'apprêterait à inonder la Pologne de migrants avec la complicité de l'Union européenne. Reportage de notre correspondant à Varsovie, Adrien Sarla.
Ici, c'est la Pologne et on n'est pas d'accord. Son drapeau rouge et blanc à la main, Eva se dépêche de rejoindre la foule de gens massés devant l'estrade. Cette retraitée de 62 ans a fait 4h30 de voiture, spécialement pour venir manifester contre l'immigration, même si elle dit ne rien avoir contre les réfugiés ukrainiens.
Ils habitent et ils travaillent ici, ce sont des gens normaux. Mais les réfugiés qui arrivent de l'Ouest viennent d'Afrique. Ils sont dangereux, ils ne travaillent pas et ce sont des meurtriers. Moi, je vote pour Navrotsky, le candidat du PiS, et je sais qu'il ne les laissera pas entrer.
Des propos racistes qui résument bien l'ambiance de la campagne présidentielle gangrénée par les fausses informations sur la question migratoire. Même le candidat de la majorité, pourtant réputé libéral, a fini par durcir son discours à l'égard des réfugiés ces derniers mois, mais pas assez pour convaincre Piotr.
Ils soutiennent le pacte migratoire européen, même s'ils font croire qu'ils sont contre. On sait comment ça a fini en Europe de l'Ouest. On sait bien qu'on n'y vit plus en sécurité aujourd'hui.
À 8 jours du premier tour, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, est donné favori, avec 33% des intentions de vote. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Entre l'Inde et le Pakistan, le cessez-le-feu est entré en vigueur. Les armes se sont maintenant tues à leurs frontières, malgré quelques accrochages rapportés par les deux pays. Des détonations ont retenti hier soir à Srinagar, la principale ville du Cachemire indien, où la défense antiaérienne est entrée en action. Au Cachemire pakistanais, des échanges de tirs ont été entendus le long de la frontière, dans cette région disputée. Hier, l'Inde et le Pakistan ont accepté de cesser leurs hostilités après 4 jours de violence qui ont coûté la vie d'une soixantaine de civils. 3 jours après son élection, le nouveau pape Léon XIV se plie pour la première fois au rite de la prière dominicale depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. Il vient d'apparaître au balcon de cette basilique. Les touristes et les fidèles ont afflué par milliers ce matin, arborant des drapeaux du monde entier et des symboles catholiques. La prière de dimanche est d'autant plus attendue que c'est bien souvent l'occasion pour le pape de s'exprimer sur les grands sujets d'actualité. Au Pérou, la fête continue à chaque Lio, où le pape Léon XIV a longtemps été évêque avant de partir au Vatican. Naturalisé péruvien, il fait l'objet d'une très grande fierté dans cette ville du nord du Pérou. Reportage de Martin Chabal.
À Chiclayo, les portraits du nouveau pape ont été affichés sur la cathédrale de la ville. De l'autre côté de la rue, c'est un restaurant qui célèbre l'élection de Léon XIV, et pas n'importe lequel.
Bonjour, on m'a dit que chez vous c'était le restaurant préféré du pape.
Oui, c'est vrai, il venait manger ici du porc frit, spécialité de la région, et son petit déjeuner américain. Et aujourd'hui, on vend le déjeuner Léon XIV avec ce qu'il mangeait ici.
À 20 mètres, devant la cathédrale, des fidèles sont encore sous le coup de l'émotion de connaître de si près le nouveau pape. Rocio a emporté des photos.
Là, tu as ma maman, et là, c'est le pape. Sur celle-là, il y a ses petits-enfants, c'est mon fils, à côté du pape.
Elle se souvient d'un homme très proche du peuple.
Je me souviens surtout de le voir saluer tout le monde, avec beaucoup d'humilité, de tranquillité. Il m'intriguait beaucoup.
Chacun a son souvenir avec le père Roberto, comme les habitants de Chiclayo l'appelaient. Et s'il n'est resté finalement que 9 ans ici, il a passé près de la moitié de sa vie dans le nord du Pérou et certains sont venus des villes voisines pour faire partie de la fête. Maintenant, il rêve de le voir revenir à Chiclayo, mais en tant que souverain pontife cette fois-ci. Martin Chabal, Chiclayo, RFI.
L'Iran et les États-Unis reprennent ce dimanche leurs négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Négociations indirectes dans le sultanat d'Oman. Elles ont lieu dans un contexte de tension régionale avant la visite au Moyen-Orient de Donald Trump la semaine prochaine. Le président américain a menacé de bombarder l'Iran si un nouvel accord n'était pas conclu. Côté iranien, avant de partir pour Oman, le chef de la diplomatie a redit que le droit à l'enrichissement de l'uranium était non négociable. Une page football avant de refermer ce journal. On jouait hier soir à la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, le championnat de France. Grâce à leur victoire au Havre et face à Lyon, Marseille et Monaco ont assuré leur place sur le podium. Place synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. De son côté, une semaine après sa victoire à Martigues, le Paris FC a pu enfin célébrer sa montée en Ligue 1 avec ses supporters. Le club francilien jouait hier son dernier match en 2e division contre Ajaccio. Victoire 2-0. Pour l'occasion, le stade de Charletti affiché complet. Les supporters du Paris FC ont savouré leur joie sous les yeux de Saliou Diouf.
C'était un jour historique, un jour de fête pour Ismaël, supporter du Paris FC.
Que du bonheur, ça fait 2 ans que je suis le club, 1 an que je suis carté ici et franchement ça fait plaisir de voir le club monter en Ligue 1.
Le club va vivre un changement radical cet été, fini les matchs au stade Charletti où il évoluait depuis 2007, direction l'Est parisien, Ismaël a hâte.
Jean-Brun, c'est un grand changement pour le Paris FC et on espère de meilleures choses encore pour l'avenir.
Sur le plan sportif, il aimerait que son équipe affiche déjà de grandes ambitions la saison prochaine.
Peut-être à la fin de la saison, une arrivée en Europa League.
Les ambitions, il faudra en avoir pour faire bonne figure en Ligue 1, mais chaque chose en son temps pour Antoine Arnaud, le prestigieux nouvel actionnaire du club.
On va d'abord célébrer avec les joueurs et avec tout le staff. Et ensuite, on se posera autour d'une table et on réfléchira à la saison prochaine. En tout cas, les fondamentaux sont excellents et la base est très très bonne.
Le club a prévu un budget de 80 millions d'euros. C'est un budget similaire à Nantes, installé en Ligue 1 depuis plusieurs années.
Reportage signé Saliou Diouf. Et j'ajoute qu'un spectateur pas comme les autres a assisté à ce match. L'allemand Jürgen Klopp, l'ancien entraîneur de Liverpool. Et il était présent dans les travées de Charletti. Bonne journée sur RFI. Elle continue avec Religion du Monde, spécial Léon XIV et avec Véronique Guémard.